Bonjour. Alors, je vais vous parler du coup de la transmission des morales modernes à travers l'écriture de contes avec l'exemple du roman de Francesca Lalbaugh sur lequel je travaille pour mon mémoire. Donc tout d'abord, je voudrais rappeler ce qu'est un conte, même si c'est plutôt difficile à définir, je trouve. Si on prend une définition simple qu'on trouve notamment dans le Larousse ou dans tout dictionnaire qu'on trouve en ligne ou même chez vous, on a en général des définitions très courtes. Par exemple, avec récit, en général, assez court de faits imaginaires. Donc, ce n'est pas une définition qui pose de réelles limites, même pas trop de caractéristiques, mais à vrai dire, il est plus facile de dire ce que n'est pas un conte plutôt que de définir ce qu'il est réellement. Parce qu'on peut dire que, par exemple, un conte, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, mais de vraiment le définir et d'expliquer ce qu'est un conte, en général, on a des définitions assez larges. Mais pour le besoin de cette présentation, on parlera plus de conte de fées, même si en général ça ne définit pas vraiment encore plus le conte, mais on peut penser que du coup c'est un récit qui met en scène des créatures imaginaires, des personnages qui vont rencontrer une intervention magique qui vient les aider ou les tester. J'avais oublié de passer. Donc les personnages des contes, ce sont des archétypes. C'est l'une des caractéristiques du conte. C'est-à-dire qu'il est plus il représente plus une catégorie de personnes plutôt qu'un être individuel avec des traits de personnalité et des caractéristiques. On a par exemple le prince charmant, le cordonnier, la belle-mère. C'est très rare d'ailleurs des fois qu'on connaisse même leur vrai prénom. Ils sont juste définis par leur titre ou leur profession. Et c'est difficile du coup de vraiment avoir l'impression de les connaître en tant que personnages parce qu'ils sont très simples au niveau de la présentation. Au niveau du conte, parce qu'ils sont passés oralement de génération en génération avant d'être posés sur le papier ou même publiés, c'est difficile de retrouver vraiment l'origine. Mais, enfin... Il y a plusieurs débats. Est-ce qu'on doit considérer que la version originale, c'est celle qui a été publiée la première? Est-ce que c'est celle la plus populaire, c'est-à-dire la version qu'on connaît à l'heure d'aujourd'hui? Mais pas vraiment de réponse sur cette question-là, parce que notre représentation est biaisée par les adaptations de Disney, qui a un peu la main mise sur les contes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a vu la version, je pense on a tous vu la version de Cendrillon de 1950, et c'est l'image qu'on a de Cendrillon, pareil pour Blanche-Neige, c'est les premières versions auxquelles on a été confrontés, et en général on se fait une idée que le conte ressemble à ça, qu'il est comme ça à la base, ou que la version originelle ressemble à celle-là, mais on se rend compte quand on fait un peu attention que les contes sont beaucoup plus sombres, et... parle de thèmes beaucoup plus sombres, tout simplement, que les versions un peu édulcorées de Disney. Pour définir un peu la réécriture, vu que c'est le thème de mon intervention, la réécriture, c'est pas un phénomène nouveau, ça a toujours été présent dans notre société, que ce soit réécrire les contes, réécrire les classiques, réécrire les pièces de théâtre. C'est un phénomène qui est qu'on ne peut pas vraiment remonter, on peut pas vraiment remonter à une date où les réécritures ont commencé à être écrites. Mais on assiste ces dernières années à un essor de réécriture de plus en plus populaire auprès des jeunes adultes. Avec le développement conséquent du genre young adult en anglais, grâce notamment aux best-sellers comme Harry Potter, Hunger Games, tout ça. Et tout comme il y a une mode vestimentaire, on a l'impression qu'il y a une mode au niveau littérature jeune adulte, c'est-à-dire qu'on a assisté aux loups-garous, vampires, tout ça, monde dystopique, et maintenant on a l'impression d'arriver aux réécritures de contes ces dernières années. Donc j'ai juste trois exemples de réécritures qui ont extrêmement bien marché, que ce soit dans le monde anglophone ou après en étant publié en France, traduit en français. Donc on a Cinder, qui est une réécriture de Cendrillon, parue en 2012. Et donc pareil, ici c'est une réécriture pour jeunes adultes. Au milieu, une réécriture qui fait débat de La Belle et la Bête, on ne sait pas trop où le ranger. Est-ce que c'est une réécriture jeune adulte? Au départ, il a été publié par... USA Children, donc rangé clairement dans le genre jeune adulte. Mais voilà, ces dernières années, il a été plutôt rangé au rayon adulte parce que les thèmes du roman et le contenu ont été remis en question, notamment par des aspects problématiques à l'intérieur. Et ensuite, on a Uprooted, donc encore une référence de La Belle et la Bête. On se rend compte que La Belle et la Bête, c'est vraiment la réécriture populaire, c'est-à-dire que c'est celle qui est... c'est la plus réécrite, tout simplement. Il y en a des centaines, et ça continue encore d'être publié. Ici, une version adulte, par contre, qui avec des inspirée par la culture russe. Donc voilà, on a un changement d'univers par rapport à celle d'avant, par exemple. Et on a vraiment, avec l'essor de cette catégorie de lecteurs, notamment par exemple grâce aux réseaux sociaux comme je sais pas si vous connaissez BookTube ou Bookstagram, qui sont des sous-genres, des sous-catégories d'Instagram ou de YouTube qui sont dédiées spécifiquement à la lecture, où on peut regarder des vidéos de personnes qui font des revues de livres en vidéo ou qui postent des photos de livres sur internet. On a vraiment un engouement autour de la littérature. Autour de la littérature jeunesse et autour d'écriture de contes ces dernières années. Donc vraiment, pour rentrer dans le vif du sujet, le roman sur lequel je travaille s'intitule The Rose and the Beast Fairy Tales Retold de Francesca Lyle Block. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est publié en 2000, donc pas mal de temps avant vraiment cette mode de réécriture de contes qui arrive plutôt dans les années 2010. Et ce roman est constitué de 9 réécritures, donc on pourrait considérer ça comme des nouvelles, mais c'est pas vraiment encore des nouvelles, c'est vraiment des histoires à part. On dirait plus que c'est des petits contes, quoi. C'est pas vraiment, on définirait pas vraiment ça comme des nouvelles. Et donc on en a 9 qui s'intitulent Snow, Tiny Glass, Charm, Wolf, Rose, Bones, Beast and I. Je vous laisse lire les réécritures qui sont présentes dans ce roman. Donc elle reprend des contes qui sont vraiment très populaires comme Blanche-Neige, Cendrillon, mais elle reprend des contes un peu moins populaires comme Barbe Bleue, Blanche-Neige et Rose Rouge. La Reine des Neiges aussi, bon maintenant c'est très populaire à cause du film Disney, mais c'est pas du tout la version Disney, bien sûr. Donc, les exemples, les citations que je vais vous montrer juste après proviennent du premier conte. J'ai choisi celui-là parce que c'est pour moi celui qui est le plus explicite au niveau des contenus de moralité moderne, c'est-à-dire tout ce qui est culture du viol et aussi la nouveauté un peu du male gaze sur les personnages féminins. Donc c'est assez intéressant parce que c'est un roman comme je dis qui est publié en 2000 et on a affaire à des sujets qui sont extrêmement actuels. Je me perds un peu dans mes fiches. Je suis un peu perdue dans mon texte. Voilà, donc je vous fais un petit contexte de l'histoire de Snow parce qu'elle, bon, elle est assez semblable à l'original. Donc celle qu'on connaît par exemple si on pense à la version Disney. Mais la différence ici, c'est que le personnage masculin qui remplace un peu le prince charmant est appelé le jardinier. Et en fait, c'est lui qui trouve Blanche-Neige quand elle est bébé. En fait, elle est abandonnée par sa mère qui l'a eue alors qu'elle était encore adolescente et qui n'a clairement pas le temps, les moyens de s'en occuper et qui l'abandonne au pied d'un arbre. Il la trouve. Il se rend compte qu'il ne peut pas la prendre en charge et il décide de la donner à 7 hommes qu'il connaît, donc c'est les remplaçants des 7 nains, et il les élève comme leur fille. Et un peu plus tard, quand elle grandit, elle a autour de 15-16 ans, il pense à elle et il décide d'aller voir ce qu'elle est devenue. Elle finit par tomber dans le coma parce que la femme du jardinier, qui en fait se révèle être, spoiler alert, la mère de Blanche-Neige est jalouse d'elle parce qu'elle se rend compte que son mari va rendre visite à une jeune fille. Elle l'empoisonne et elle se retrouve dans le coma et le jardinier arrive, la voit et il a cette réflexion. He wanted this stillness. She was completely his now. In a way she would never be again. His silent, perfect bride. he wanted to possess. J'ai coupé un petit peu la citation, mais c'était juste une description physique. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que l'auteur choisit vraiment le moment emblématique du conte, le moment considéré comme révélateur de l'amour pur entre le prince et Blanche-Neige, et le transforme en un moment déroutant pour le lecteur. On se questionne du coup sur le conte qu'on connaît. On a ici affaire à des pensées extrêmement dérangeantes, parce qu'on se rend compte qu'il la préfère silencieuse, qu'il la préfère endormie. C'est, il n'y a que de cette façon-là qu'il aura vraiment un contrôle total sur elle. Et elle n'aura pas... il la compare également aussi à sa mère, sans le savoir, en disant que sa mère lui... Sa femme lui crie dessus, sa femme est jalouse, alors qu'avec une jeune fille aussi belle et aussi silencieuse, aussi immobile, elle ne lui dira jamais plus rien. Et donc à ce moment-là, on n'a plus vraiment envie qu'il l'embrasse, et on voit la relation sous un autre jour. Et en plus, si on rajoute le côté de la différence d'âge entre les deux personnages, qui lui a une quarantaine d'années, peut-être un peu moins, 35 ans, et elle qui est une jeune fille de 15-16 ans, c'est encore plus dérangeant. Pour conclure, ce qu'on peut retenir vraiment des contes, c'est qu'il y a une forme d'immortalité à leur matériel, c'est-à-dire que c'est inépuisable. On se rend compte que même si les thèmes sont... même si les contes sont réécrits, réécrits, on n'épuise jamais les thèmes parce qu'au fur et à mesure, on va mettre l'accent sur telle ou telle chose, par rapport à la société dans laquelle on vit, on va faire attention à plus de choses qu'avant, on va faire plus attention à la relation entre le personnage masculin et le personnage féminin, à... La culture du viol, le regard aussi de l'autre, plein de thèmes comme ça qui n'étaient pas forcément importants quand on regarde 20 ans en arrière. Et on voit en lisant aussi beaucoup de réécriture que les contes sont faits pour être réinventés, transformés, changés, voilà, pour représenter la société d'aujourd'hui et pour représenter la société d'aujourd'hui, parce qu'un roman... c'est toujours miroir de le moment dans lequel il est écrit.
Merci beaucoup.